France Culture.
Ah bonjour à toutes et à tous. Les États-Unis et l'Iran démarrent aujourd'hui à Oman, au Moyen-Orient, des discussions pour trouver un accord autour du programme nucléaire iranien. Nous y reviendrons au cours de ce journal. En France, après une semaine chargée à l'Assemblée nationale, entre l'avenir en question des aides et feux ou encore les débats sur la fin de vie, l'Assemblée interrompt ses travaux avant une reprise tendue fin avril. Et puis à Lyon, Rouen ou Paris, des rassemblements sont prévus pour dénoncer les attaques faites à l'état de droit. Pour revenir sur cette notion et son instrumentalisation, Denis Salas, ancien juge, enseignant associé à l'École nationale de la magistrature et l'invité du journal. Un départ en vacances, mais des débats houleux à venir. L'Assemblée nationale interrompt ses débats pendant 2 semaines. Les députés seront de retour dans l'hémicycle à partir du 28 avril. Les commissions permanentes et les examens en séance publique sont donc suspendus. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Héloïse.
Sauf que hasard du calendrier, cette trêve intervient dans un contexte électrique avec 2 textes majeurs étudiés actuellement.
Oui, à commencer d'abord par le projet de loi dit de simplification. Hier, les députés ont supprimé des dizaines de comités. D'autres, à l'inverse, ont été restaurés par rapport à la version adoptée en commission. C'est le cas par exemple des CESER, Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les débats sont rugueux car la gauche voit dans ce texte une offensive de dérégulation et les filles évoquant un trumpisme, quand les Républicains, le RN et la majorité y voient de leur côté un outil pour éclaircir le droit et le fonctionnement des institutions. Le plus dur reste à faire. Au programme le 29 avril, la réforme du dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, la suppression des ZFE, les zones à faible émission ou encore la mise en place de la facture électronique qui doit éviter 3 milliards d'euros de fraude par an dès 2026.
Alors, outre la simplification, l'Assemblée se penchait aussi cette semaine sur la fin de vie.
Oui, dans le cadre de la commission des affaires sociales cette fois. Durant la première session des débats, hier, un amendement LFI a été adopté. Il prévoit qu'une personne qui sollicite l'aide à mourir puisse choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou infirmier. La droite y voit un basculement majeur de l'équilibre du texte. Autre point de débat, celui des critères clés pour être éligible. Et là, la pause s'avère peut-être salutaire car un avis de la Haute Autorité de Santé devrait être publié avant la reprise des échanges le 28 avril. Une rentrée qui devrait donc être agité également en séance publique. Les députés reviendront sur la souveraineté énergétique de la France, autre sujet épineux, où le RN menace de s'opposer à la future programmation pluriannuelle de l'énergie, la feuille de route française en la matière.
Merci Valentin Gris pour France Culture. Cet après-midi, des rassemblements sont prévus dans de nombreuses villes de France, à Lyon, Nantes ou Paris, pour dénoncer les récentes attaques de l'extrême droite contre l'état de droit. Un appel à l'initiative d'organisations comme SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme ou encore le Parti Socialiste, et qui vise à réagir aux propos du Rassemblement National contre une supposée tyrannie des juges, au lendemain de la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics le 31 mars en première instance. Reste que les critiques et les allusions à l'égard de l'état de droit se multiplient. De quoi alimenter d'une part une confusion sur ce que recouvre cette notion et d'autre part de quoi attiser une défiance envers nos institutions. Pour en discuter ce midi, Denis Salas, ancien juge, essayiste et enseignant associé à l'École nationale de la magistrature, est en direct avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je le disais en introduction, aujourd'hui, représentants politiques mais aussi de l'État critiquent le fonctionnement de l'État de droit ou même son cadre. Mais précisément, à quoi fait référence l'État de droit aujourd'hui ?
L'État de droit, c'est l'ensemble des règles qui organisent les pouvoirs publics dans un pays défini par la Constitution et par les déclarations des droits fondamentaux, les droits de l'homme, ou même aussi la Convention européenne des droits de l'homme en général. Donc c'est au fond à la fois le pouvoir et les contre-pouvoirs qui permettent effectivement à une démocratie de combiner à la fois le suffrage universel et d'autre part, les droits des minorités qui peuvent s'exercer par des contre-pouvoirs, dont la justice est un des facteurs. Donc l'état de droit, c'est par exemple, le suffrage universel, le principe d'égalité devant la loi, les garanties des libertés individuelles, les règles de séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Voilà, c'est un ensemble de règles qui sont fondamentales pour une démocratie libérale qui s'oppose à une démocratie illibérale qui tend à écarter ces valeurs d'état de droit de son fonctionnement.
Et ce sont des droits qui s'appliquent à tous.
Oui, c'est un droit qui s'applique à tous, et c'est précisément un des points qui a été soulevé par le procès du Rassemblement national la semaine dernière, parce que effectivement, ils ont eu tendance, les plaignants, enfin les accusés plutôt, les prévenus, ils ont eu tendance à dire nous voulons être jugés que par nos électeurs, qui sont la seule légitimité qu'ils se reconnaissent. Alors que la justice leur a dit oui, mais comme tout citoyen, vous devez répondre de vos actes devant la justice. Et c'est cette difficulté de dialogue entre deux légitimités, une légitimité purement électorale, une légitimité fondée sur le droit et la responsabilité individuelle qui s'est affrontée dans ce procès.
Et quels sont les risques à réfléchir ainsi ?
Les risques, c'est de brouiller les frontières de l'état de droit et de dire que l'état de droit, on peut s'en passer au profit uniquement d'une légitimité électorale, par exemple, qui peut se suffire à elle-même, ne répondre de ses actes que devant le peuple, par différents moyens. Le référendum, par exemple, est un vecteur très, très reconnu. Et se passer de l'état de droit qui serait finalement un point de vue, une opinion comme une autre, qui n'aurait pas de valeur de référence pour contrôler l'action politique, qui ne répondrait effectivement que devant ce peuple unique. L'état de droit, c'est aussi la diversité des expressions du peuple. Il y a aussi un peuple fondateur qui est, pour les juges, une référence majeure, qui doit pouvoir s'exprimer au titre de l'état de droit dans le contrôle de l'action politique. Et les citoyens peuvent, par différents moyens, par le recours au juge, par l'appel à une question de prioritaire de constitutionnalité, par le contrôle de conventionnalité, l'appel à la Convention européenne des droits de l'homme, peut faire valoir leurs droits contre des lois qui pourraient, ou des décisions qui pourraient leur être contraires.
Est-ce que le contexte international dans lequel on est aujourd'hui influence aussi nos conceptions de l'état de droit aujourd'hui en France? Je pense par exemple à ce qui se passe aux États-Unis où les pouvoirs du président semblent s'étendre.
Ah oui, le contexte international est déterminant. Marine Le Pen a d'ailleurs eu le soutien de tous les leaders populistes de Vladimir Poutine bien évidemment, mais Donald Trump est intervenu aussi, Orban en Hongrie aussi. Ils sont tous des régimes à la fois identitaires et nationalistes qui se définissent comme des autocraties, bon, avec des nuances qu'il faut évidemment repérer selon les régimes, mais qui contestent les contre-pouvoirs et qui revendiquent un pouvoir sans limite, parce que précisément il a été élu. Et on voit très bien, en tout cas pour prendre l'exemple de Donald Trump, qu'il est en conflit permanent avec les juges fédéraux, avec la Cour suprême, et que pour le moment, même si la Cour suprême, beaucoup de membres ont été nommés par ses soins, et pour le moment, il est protégé par son immunité présidentielle, mais beaucoup de contestations. Les citoyens contestent énormément ces executive orders, ces décisions unilatérales, par la voie de la justice. Donc il y a une tension très forte aujourd'hui aux États-Unis qui engage une riposte des juges contre la toute-puissance proclamée par Trump.
Merci Denis Salas. Je rappelle que vous êtes ancien juge, essayiste et enseignant associé à l'École nationale de la magistrature d'avoir répondu à nos questions. Et merci à Aloïse Disguérin pour la préparation. Nous évoquions à l'instant l'importance de nos institutions pour garantir l'état de droit. Quand le populisme cherche à discréditer donc ces institutions, et c'est toute la démonstration d'un livre qui sort en Italie. L'écrivain italien Antonio Scurati vient de publier dans son pays le dernier de ses 5 romans consacrés à Mussolini. En 7 ans, la montée des populismes dans le monde a rendu cette série d'une brûlante actualité. À Rome, Bruno Duvic.
Lorsqu'Antonio Scurati s'est lancé dans l'aventure, beaucoup doutaient de sa pertinence en Italie et à l'étranger. Mais depuis 2018, les temps ont changé.
Quand je suis allé en Allemagne avec la traduction du premier livre, les journalistes me disaient « Les Italiens n'ont pas réglé leur compte avec le fascisme, alors que les Allemands l'ont fait avec le nazisme. » Quand j'y suis retourné l'an dernier pour le 4e volume, ils ne pouvaient plus dire la même chose. Quand j'ai vu Steve Bannon faire le salut fasciste aux États-Unis, j'ai dit « Plus personne ne peut avoir de doute. »
Car les leaders populistes s'inspirent de Mussolini. Un exemple.
Les images de Mussolini gesticulant nous semblent ridicules aujourd'hui.
mais il avait compris qu'à l'ère des masses populaires, le corps du leader est au centre de la scène et s'est repris par tous les leaders populistes de notre siècle. Ça peut être un corps lourd, ridicule même. Il n'y a plus de programme, plus d'institutions. Tout ça, c'est la démocratie libérale. La tendance autoritaire, c'est le leader et son physique, au contact du peuple qu'il incarne et au diable tout le reste.
Et le corps peut être féminin, ajoute l'écrivain, allusion à Giorgia Meloni, qui, même si elle a condamné les crimes de Mussolini, refuse toujours de se dire antifasciste.
Bruno Duvicarome pour France Culture. Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé viennent de trouver un accord de principe sur un texte pour permettre de mieux protéger le monde de futures pandémies. Un accord nécessaire face aux risques sanitaires à venir, mais qui s'est conclu sans les États-Unis qui avaient annoncé se retirer des négociations. Les États-Unis qui négocient aujourd'hui avec l'Iran sur le dossier du nucléaire iranien. La rencontre a lieu à huis clos à Oman, un pays du Moyen-Orient, alors que l'Iran accroît sa production d'uranium. Clément Terme est chargé de cours à l'université Paul-Valéry de Montpellier, spécialiste de l'Iran. Et pour lui, que les autorités iraniennes aient accepté cette rencontre montre à quel point l'Iran est aujourd'hui acculé.
Ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi il y a ce tournant pragmatique. Pourquoi le guide a accepté ce qu'il refuse depuis 7 ans, de s'asseoir à la table des négociations à Oman, même dans un format indirect pour sauver la face, même si apparemment ça pourrait être aussi une table triangulaire où on ne sait pas si c'est 2 chambres séparées dans un hôtel ou dans 2 hôtels différents. Donc vous voyez, ils sont aussi en train de discuter du format. Mais je pense que cette décision a été prise parce que il y a la peur de la chute du régime. Donc pour la République islamique d'Iran, il s'agit d'un défi existentiel, la politique de pression maximale de Donald Trump. Pour Donald Trump, il s'agit de préserver la paix au Moyen-Orient. S'il est prêt simplement à utiliser l'outil diplomatique, ce qu'il peut obtenir, ce qui est réaliste, c'est un accord intérimaire. Par contre, s'il soutient une intervention militaire israélienne ou s'il contribue, si vous voulez, à la multiplication d'opérations clandestines de sabotage ou d'élimination de responsables iraniens du nucléaire par Israël, à ce moment-là, il pourra obtenir plus. Mais la difficulté, c'est d'obtenir par la diplomatie un objectif maximaliste dans un délai très court. Donc, à mon avis, il va devoir faire avec les objectifs de la partie adverse, qui souhaite, elle, au contraire, gagner du temps pour éviter 2 scénarios négatifs à court terme, une frappe de ses installations militaires et le retour des sanctions de l'Organisation des Nations Unies qui pourraient être activées d'ici au mois de juin par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Le spécialiste de l'Iran, Clément Terme, qui a été interrogé chez nos confrères de France Info. Autre négociation en cours, une délégation du Hamas est attendue aujourd'hui au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens en vue d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. Les explications d'Alice Moreno.
Effectivement, une délégation du Hamas doit arriver dans la capitale égyptienne aujourd'hui. C'est ce que confirme ce matin une source proche du gouvernement égyptien. Selon un responsable du Hamas, contacté par l'agence France Presse, Khalil Al-Haya, président du bureau politique du Hamas, mènera lui-même cette délégation. C'est lui qui a pris la tête du groupe à la mort de Yahya Sinwar. Le Hamas n'aurait pas reçu de proposition claire, de cadre précis pour cette possible nouvelle trêve. Des médias israéliens assurent quant à eux qu'Israël et l'Égypte travaillent sur un plan de trêve impliquant la libération de 8 otages israéliens vivants, ainsi que 8 corps d'otages, contre un arrêt des combats pour une période de 40 à 70 jours. La libération de prisonniers palestiniens ferait aussi partie des négociations. Enfin, si un accord de trêve était trouvé, l'Égypte souhaite la reprise des discussions sur la 2e phase du cessez-le-feu qui implique la libération de tous les otages israéliens notamment, ainsi qu'un arrêt prolongé des combats. Cette étape devait déjà être appliquée fin février, avant qu'Israël ne reprenne ses frappes sur la bande de Gaza. Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Amr Abdelhati, participe à un forum diplomatique en Turquie dédié au futur de la bande de Gaza. Il insiste sur la nécessité de mettre en place une nouvelle gouvernance du territoire palestinien et ne cesse de marteler l'absolue urgence d'adopter le plan arabe de reconstruction de la bande de Gaza.
Enfin, 3 hommes, dont un employé d'un consulat d'Algérie en France, ont été mis en examen hier à Paris. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement fin avril 2024 sur le sol français d'un opposant au régime algérien, l'influenceur Amir Bourros. Ils sont poursuivis pour arrestation, enlèvement et séquestration, indique aujourd'hui le parquet national antiterroriste. Et puis la météo, cet après-midi, le temps se dégrade avec des nuages sur les 3/4 du pays, à l'exception du nord-est. Du côté des températures, comptez 18 degrés à Bourges, 21 à Rouen et à Lyon.